l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Alstom et Siemens doivent renoncer à leur projet de fusion du fait du veto de Bruxelles. Les gouvernements français et allemands sont furieux contre la Commission européenne et ils veulent faire évoluer les règles de la concurrence en Europe. Le retrait militaire des États-Unis de Syrie ne signifie pas la fin du combat américain, affirme le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Une réunion de la coalition internationale contre le groupe djihadiste se tient à Washington. Les efforts de redressement engagés par la France semblent s'essouffler, s'inquiète la Cour des comptes. Pour elle, les mesures annoncée face au mouvement des Gilets jaunes fragilise les finances publiques. Nous entendrons le président de la Cour, Didier Migaud. Et puis une porte claque à La République En Marche. Le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, quitte le groupe de marcheurs. Il juge insuffisantes les avancées sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. La fusion entre Alstom et Siemens ne se fera donc pas. Les deux groupes espéraient former ensemble un géant du rail en Europe, mais la Commission européenne a rejeté leur projet, estimant qu'il soulevait des problèmes de concurrence. Ce veto a provoqué la colère de Paris et Berlin. Le Premier ministre Édouard Philippe, interrogé cet après-midi à l'Assemblée, n'est pas tendre avec la Commission européenne.
La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne. Et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. Je ne peux pas être plus clair. Il est un peu tôt pour dérouler la totalité de l'impact pour cette décision, mais je veux dire qu'Alstom est une grande entreprise et que, même si, pour de mauvaises raisons, me semble-t-il, ce projet de fusion n'intervient pas, elle a largement les ressources, cette entreprise, pour penser son futur, pour imaginer une stratégie et pour faire en sorte de faire prévaloir ses atouts.
Alors la décision de la Commission européenne n'est pas tout à fait une surprise. Aujourd'hui, Alstom prend acte, il renonce à son rapprochement avec les activités ferroviaires de Siemens et le groupe français indique qu'il va se concentrer sur la poursuite de sa croissance, Hakim Kasmi.
Et oui Aurélie, si les dirigeants d'Alstom et de Siemens ne cachent pas leur déception, voire leur incompréhension face à cette décision, à court terme, l'avenir d'Alstom n'est pas du tout menacé. Son carnet de commandes est plein, en France comme à l'étranger. Il est actuellement de 40 milliards d'euros avec des commandes par exemple de la SNCF pour des TGV, des RER et des TER. Du coup, malgré la décision de la Commission européenne, pour l'instant, le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, ne prévoit pas de recours.
Même le recours ne donne pas une seconde chance. Le recours ne permet pas de suspendre la décision, ne permet pas de continuer le projet. Ce type de projet, ils ont leur dynamique. Connaître qu'une fois que le projet s'est arrêté, si nous faisons un recours et que nous avons gain de cause dans 2-3 ans, on va pas remettre le projet, en tout cas c'est un nouveau projet, ce n'est pas le même projet qu'on peut comme suspendre en l'air comme ça pendant 2-3 ans. Donc le projet actuel est totalement arrêté.
Du côté des syndicats qui ont toujours été contre cette fusion, c'est le grand soulagement aujourd'hui, car cette opération aurait détruit des milliers d'emplois en France et en Europe, selon Olivier Collère, délégué CFDT chez Alstom, pour qui la prudence reste toutefois de mise.
Il faut que nous connaissions la politique industrielle qui va être développée au sein de l'entreprise Alstom elle-même et nous espérons que cette politique industrielle va permettre de sauvegarder des emplois au sein des établissements en France mais comme à travers le monde.
En attendant, rien ne dit qu'Alstom ne cherche pas à se renforcer plus tard en tentant de racheter cette fois un concurrent plus petit pour ne pas froisser la Commission européenne, comme par exemple le Canadien Bombardier ou l'Espagnol CAF, voire un autre opérateur en Asie.
Hakim Kasmi, la France et l'Allemagne ne comptent pas en rester là. Paris et Berlin prévoient une initiative commune pour réformer les règles européennes en matière de concurrence. L'idée étant de pouvoir faire face à la Chine qui détient le numéro un mondial du ferroviaire. Encore faudrait-il que l'Union européenne s'entende sur le sujet. Or, pour expliquer le veto de Bruxelles, la commissaire européenne à la concurrence a mis en avant les intérêts des 26 autres États membres, Pierre Benazet.
Sur le marché des métros et des trains conventionnels, la fusion Alstom-Siemens ne posait pas de problème à la Commission européenne. En revanche, le secteur des trains à grande vitesse et le secteur de la signalisation ferroviaire étaient selon elle menacés de situation de quasi-monopole par la perspective de la fusion des deux géants européens. Deux champions européens du ferroviaire qui sont d'ailleurs suffisamment bien armés pour faire face à la concurrence chinoise, selon Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence.
The state-controlled supplier of trains... fabricant de trains contrôlé par l'État en Chine, c'est RRC, a plus de 90% de son activité en Chine. Il a moins de succès en dehors de son marché national, mais a vendu quelques métros, par exemple, aux États-Unis. Cependant, aucun fournisseur chinois n'a jamais participé à un appel d'offres pour la signalisation en Europe, ni vendu un seul train à grande vitesse hors de la Chine. Il n'y a aucune perspective d'une entrée des Chinois sur le marché européen dans un avenir prévisible.
Et face aux demandes françaises et allemandes de réforme des règles européennes de la concurrence, la commissaire hausse les épaules. Pour elle, je cite, « ce n'est pas seulement ceux qui crient le plus fort qu'il faut écouter ».
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Culture. Theresa May revient demain à Bruxelles. La première ministre britannique doit rencontrer une nouvelle fois les dirigeants européens pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit. Aujourd'hui, c'est le premier ministre de la République d'Irlande, Leo Varadkar, qui a été reçu par Donald Tusk et Jean-Claude Juncker. Le président du Conseil européen et le président de la Commission ont clairement affiché leur volonté d'éviter le retour d'une frontière en Irlande, Angélique Bouin.
Theresa May a-t-elle un plan fiable, des suggestions réalistes pour sortir de l'impasse? C'est la question que se posent les responsables européens et le Premier ministre de la République d'Irlande venu s'assurer de la solidarité des 27. Sur ce sujet, Leo Varadkar repart confiant, l'Irlande ne sera pas seule. Nous serons à ses côtés, a martelé le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. On ne renoncera pas au filet de sécurité. Même détermination du côté du président du Conseil, qui représente les chefs d'État et de gouvernement, doublée néanmoins d'une pointe d'agacement, Donald Tusk croit encore à une solution qui éviterait une sortie désordonnée des Britanniques, mais tout en se préparant au pire et sans mâcher ses mots contre les responsables, selon lui, de cette situation.
Je crois très fort qu'une solution commune est possible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la trouver. Le sens des responsabilités nous incite aussi à préparer un éventuel fiasco. Le Premier ministre et moi-même avons évoqué les actions nécessaires s'il n'y a pas d'accord. Et au fait, je me demande quelle pourrait être la place spéciale en enfer pour ceux qui ont fait campagne pour le Brexit sans même l'esquisse d'un plan pour le réaliser en toute sécurité.
Une petite phrase qui en dit long sur le sentiment d'impuissance qui prévaut ici à Bruxelles. On ne renégociera pas une virgule du traité de séparation, ont redit les dirigeants européens, en ajoutant que la question de la frontière irlandaise restait la priorité la plus élevée de l'UE.
Les États-Unis promettent à leurs alliés de continuer à combattre l'État islamiste. Islamique. Des représentants des 79 États membres de la coalition qui luttent contre le groupe djihadiste se sont réunis à Washington et le secrétaire d'État Mike Pompeo leur a promis que le combat se poursuivrait sous une nouvelle forme. La correspondance de Grégory Phillips.
Mi-décembre, Donald Trump proclamait la défaite de l'État islamique et annonçait le retrait des troupes américaines de Syrie. Mais devant les autres membres de la coalition anti-Daesh, les Américains se montrent beaucoup plus prudents. La mission continue, a dit tout à l'heure le secrétaire d'État Mike Pompeo, et les États-Unis restent engagés dans ce combat.
L'État islamique reste une menace. C'est pourquoi l'annonce du président Trump d'un retrait des troupes américaines de Syrie ne signifie pas la fin du combat. Cette guerre, nous allons la poursuivre à vos côtés. Le retrait de nos troupes est un changement de tactique, mais ça ne modifie pas la mission que nous nous sommes fixés. C'est simplement une nouvelle étape dans ce combat qui est long. Le retrait sera bien coordonné et notre politique vis-à-vis de la situation syrienne ne change pas.
Tout à l'heure, Donald Trump s'adressera aux 79 membres de cette coalition créée il y a 5 ans pour défaire l'État islamique. On verra alors quelle est la tonalité de son discours, mais on sait qu'il y a parfois des différences entre la parole de Trump et la réalité de la diplomatie américaine. En organisant ce sommet ici à Washington, le Département d'État signifie à ses alliés que les États-Unis entendent bien continuer à diriger la lutte contre les djihadistes.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. La Cour des comptes demande à l'exécutif de redoubler d'efforts pour assainir les finances publiques. La Cour juge le déficit public pour 2019 préoccupant et encore incertain, puisqu'une partie des mesures annoncées en décembre ne sont toujours pas financées. Cette incertitude porte sur 3,7 milliards d'euros. Le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, appelle donc le gouvernement à régulariser la situation en présentant rapidement une loi.
À partir du moment où un certain nombre de mesures ont été adoptées après le vote de la loi de finances, à hauteur de 3,7 milliards, le gouvernement s'est engagé à les compenser, mais pour le moment, ça n'est ni documenté, ni concrétisé par un texte financier. C'est pour ça que la Cour préconise l'examen, le vote d'un texte qui puisse prendre en compte justement ces mesures votées après la loi de finances. Et puis, vous le savez, l'INSEE a révisé plutôt à la baisse ses prévisions de croissance sur 2019. Il y a un environnement économique international qui s'est plutôt dégradé par rapport au moment où cette loi de finances a été préparée. Les chiffres sur l'inflation, les chiffres concernant l'évolution du prix du pétrole ont également changé, d'où un certain nombre plus fortes sur l'année 2019. D'où le souhait que le Parlement puisse être saisi prochainement de textes qui puissent prendre en compte l'évolution de cette situation.
Didier Migaud, président de la Cour des comptes. La Cour qui, dans son rapport annuel, fait des observations sur une vingtaine de sujets différents. Pour plus de la moitié, il s'agit de dossiers sur lesquels elle avait fait des recommandations et elle en mesure aujourd'hui le suivi et l'application, Marie Viennot.
Oui, quand elle fait le bilan, la Cour constate qu'elle a formulé 1571 recommandations en 2015, 2016 et 2017 et que 24% ont été totalement mises en œuvre, 34% sont en cours. Dans 6% des cas, elle a essuyé un refus net et le reste en est à un stade incertain. Dans le rapport de cette année, elle constate des progrès sur deux sujets. Les avoirs bancaires et contrats d'assurance vie en déshérence, sur lesquels les banques et assureurs prélevaient des frais. En 2014, une loi a été votée et selon la Cour, cela change la donne, même s'il faut conforter sa mise en œuvre. Autre bon point, pour le service militaire adapté, un dispositif pour les jeunes venant de l'outre-mer éloignés de l'emploi. En 2010, la Cour en avait critiqué l'organisation. Cette année, elle reconnaît que les taux d'insertion sont bons. Côté vert à moitié vide, les magistrats alertent sur trois sujets. La filière du sang, restructurée dans les années 90. Les acteurs de cette filière sont mal gérés, ils font de mauvais choix stratégiques, l'État ne les contrôle pas assez, s'inquiètent les magistrats. La ville de Bobigny, en banlieue parisienne, est sévèrement pointée du doigt pour ses charges de personnel de 34% supérieures aux autres villes de la même taille. Carton rouge aussi pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, structurellement déficitaire et non adaptée aux besoins, selon la Cour des comptes. Enfin, pour l'Agence française de développement, Radio France, les trains intercités, les transports en commun toulousains, la politique salariale à EDF, les urgences et le contrôle de la sécurité sanitaire de l'alimentation, tous ces sujets rentrent dans la catégorie « un peu a été fait pour suivre les recommandations de la Cour, mais peut mieux faire ».
Marie Viennot, le député Mathieu Orphelin annonce son départ du groupe La République En Marche. Ce proche de Nicolas Hulot invoque notamment des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Et dans un mail adressé à ses collègues marcheurs, il critique certains choix du gouvernement, Stéphane Robert.
Oui, il fait partie des 50 députés de La République En Marche à s'être abstenu à l'occasion du vote de la loi anticasseur hier après-midi, estimant que l'article 2 du projet de loi, celui qui autorise les préfets à interdire de manifester, n'est pas acceptable. Et nous avons donc appris, il y a moins d'une heure maintenant, qu'il a décidé de jeter l'éponge et de quitter le groupe parlementaire La République En Marche à l'Assemblée. Chez ses collègues, c'est la douche froide. « J'en suis fort marri », expliquait tout à l'heure la députée de Paris, Olivia Grégoire. « On n'a pas toujours défendu les mêmes positions, mais c'est un homme de conviction qui mérite d'être connu, sensible et à l'écoute des autres. » J'espère que nous pourrons malgré tout continuer à travailler ensemble sur la transition énergétique, conclut-elle. Parce que Mathieu Orphelin, c'est avant tout un fervent défenseur de l'environnement. Il a longtemps travaillé à la Fondation Nicolas Hulot. Il est d'ailleurs resté très proche de l'ancien ministre et il a été à la fois touché et troublé quand Nicolas Hulot a décidé de rendre son tablier et de quitter son ministère en août dernier. Mais jusqu'ici, Mathieu Orphelin se disait et expliquait à tous ceux qui lui posaient la question « tant que je suis utile », tant que j'ai l'impression de faire avancer les choses, notamment en matière d'environnement, je reste et je continue. C'est lui notamment qui avait déposé un amendement afin d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi d'ici 3 ans. Sans succès, mais ça ne l'avait pas découragé. Manifestement aujourd'hui un ressort s'est cassé. Selon un rapide décompte, il est le 6e à faire défection ou à avoir été exclu. Pour autant, La République En Marche conserve une confortable majorité à l'Assemblée avec 306 députés sur 577.
Stéphane Robert, maintenant attention, j'ouvre les guillemets. L'attentat de Strasbourg était une manipulation. Le ministère de la Santé veut cacher au grand public la nocivité des vaccins. Les théories du complot ont le vent en poupe. Selon une étude de l'IFOP pour l'ONG Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès, 65% des Français croient à au moins une théorie du complot. La mort de Diana serait un assassinat pour 34% des personnes interrogées et 9% ne croient pas au premier pas de l'homme sur la Lune. Ce sont surtout les plus jeunes et les moins diplômés qui ont tendance à croire à ces théories, Maxime Fayolle.
Oui, et les personnes qui sont issues d'un milieu plutôt défavorisé également. Ce qui attire en fait dans ces théories, c'est le caractère un peu simpliste. Le tout couplé à une suspicion générale, explique Virginie Spies. Elle est docteure en sciences de l'information et sémiologue.
On voit qu'il y a une méfiance en fait du politique, des personnes qui ont le pouvoir en fait. Et donc on voit que cette méfiance envers le politique, c'est envers la politique, envers les journalistes, envers les médias, et également une certaine montée du populisme. Et donc ça signifie aussi une perte de croyance dans nos institutions en général, malheureusement.
Et c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans cette étude. Plus on croit à ces théories du complot, et moins on accorde d'importance au concept de démocratie. C'est malheureusement inéluctable, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux qui va accroître la vitesse de propagation de ces théories ou fausses infos. Et la solution n'est pas simple à trouver pour Virginie Spies.
Il faut que tout le monde s'y mette absolument, que ce soit l'école qui le fait déjà en grande partie, hein, et pour montrer comment on cherche l'info, où on la cherche, les parents également, bien sûr, et les médias aussi, les journalistes aussi, ce qu'ils font de plus en plus. Il n'y a jamais eu autant d'endroits pour aller vérifier les infos.
Et c'est vrai que ces derniers mois et ces dernières années, plusieurs médias comme Le Monde avec les décodeurs, Libération ou encore dernièrement l'AFP ont mis en place des systèmes pour tenter de démonter ces théories et fausses infos, mais il reste encore du travail.
Maxime Fayolle. Alors que le gouvernement a annoncé une hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne, on assiste à une baisse des candidatures des jeunes ayant ce profil. Les candidats extra-communautaires à une licence en fac sont en baisse de 10%, indique l'organisme public Campus France. Alors faut-il y voir un effet de la nouvelle politique française? C'est encore un peu tôt pour le dire, Fiona Moganam.
Oui, effectivement, parce qu'en termes de chiffres, déjà, cette baisse n'est pas vraiment significative pour Campus France. On est passé de 31 500 dossiers à 28 300 environ pour cette année, en sachant qu'on ne parle ici que des dossiers d'étudiants qui souhaitent s'inscrire en première année d'université. Donc cela ne veut pas dire que tous ces candidats feront réellement leur entrée à l'université à la rentrée prochaine. L'an dernier, seul un peu plus d'un quart d'entre eux a obtenu un visa et passé le processus de sélection. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ces étudiants de première année ont souvent un profil particulier et effectuent généralement toutes leurs études en France. Béatrice Cayatte est la directrice générale de Campus France.
C'est forcément un projet familial qui est soutenu. C'est quand même des gens qui sortent d'un milieu qui est moyennement aisé ou aisé. On a fait une étude qui montre que, en moyenne, les étudiants en France dépense 14 000 euros par an. Donc finalement, payer 2 770 euros, je dis pas que c'est rien, mais ça fait partie finalement de ce qui se passe partout dans le monde.
2 770 euros, c'est la somme que devront payer les étudiants en licence, c'est plus en master et en doctorat, 3 770 euros. Mais pour ces étudiants, les candidatures sont toujours en cours et se clôturent fin mars. Reste donc à savoir quelles seront les conséquences de la hausse des frais d'inscription pour eux. Plusieurs universités ont annoncé que dans tous les qu'elle n'appliquerait pas ses nouveaux tarifs à la rentrée prochaine et s'inquiète de voir les inscriptions d'étudiants venant de certains pays, notamment les plus pauvres, chuter.
Fiona Moganam. Son combat judiciaire contre Monsanto dure depuis 12 ans. La Cour d'appel de Lyon s'est penchée aujourd'hui sur la requête de l'agriculteur Paul François qui espère faire reconnaître la responsabilité de la firme américaine dans son intoxication à un pesticide. Le céréalier de Charente avait été intoxiqué en avril 2004 après avoir inhalé des vapeurs de l'Asso, un herbicide de Monsanto. Il avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, mais Monsanto s'étant pourvu en cassation, l'affaire a été de nouveau renvoyée devant la cour d'appel. Compte rendu d'audience de Laurélie Carif.
D'entrée, la présidente de la Cour fémine de s'étonner. On n'est pas habitué à voir autant de monde dans cette chambre où se juge des affaires civiles. Une cinquantaine de personnes se massent au fond de la salle, debout faute de place. Sur le fond, les arguments juridiques ne changent pas. Monsanto conteste en bloc sa responsabilité. La firme n'a rien à se reprocher. Paul François ne présente aujourd'hui aucun trouble. Même si c'était le cas, ce serait à cause de sa propre imprudence, assène Jean-Daniel Bretzner, l'avocat de Monsanto.
Dans son ouvrage, il dit très clairement qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait de produits dangereux. Il dit d'ailleurs qu'il a pris des mesures pour les stocker à un endroit précédé d'un panneau qui est « danger ». Il le savait pertinemment. Et il dit aussi qu'il a été négligent le jour J. Voilà. Ça n'est pas Monsanto qui le dit, c'est Paul François qui le révèle.
L'accusation fait bondir François Laforgue, le conseil de Paul François.
Monsanto invoque une faute de Paul François comme il l'a toujours fait, sans succès. Ces questions ont déjà été écartées par le tribunal et par la cour d'appel. Il n'y a pas de faute de Paul François et donc il n'aurait jamais dû arriver ce qui est arrivé. Il aurait dû pouvoir lire sur l'étiquette qu'il y avait des protections respiratoires à mettre en œuvre, que le produit était dangereux, qui contenait un produit particulièrement dangereux, le monochlorobenzène, Ça n'a pas été fait par Monsanto. Sa responsabilité a déjà été retenue à plusieurs reprises.
La Cour d'appel de Lyon rendra sa décision le 11 avril. Même si les juges reconnaissaient la responsabilité de Monsanto, la procédure n'en serait pas terminée pour autant. Le dossier reviendrait très certainement devant un tribunal pour fixer alors le montant du préjudice.
L'Aurélie Carrier va Lyon et le combat de Pope François n'est pas isolé. Aux États-Unis, près de 10 000 requêtes judiciaires visent actuellement l'herbicide au glyphosate de Monsanto. En août dernier, notamment, un tribunal de Californie avait condamné Monsanto à verser la somme record de 290 millions de dollars de dommages et intérêts à un jardinier atteint d'un cancer incurable. Demain jeudi, le temps sera gris et humide du sud-ouest vers le nord-est. Météo France prévoit des averses sur le nord-ouest et le nord, temps plus clément dans le sud-est. Les températures minimales varieront de moins 1 à 9 degrés. L'après-midi, il fera 7 à 13 en général, 14 à 16 autour de la Méditerranée. A été préparé avec Jean-François Braun.